un peu désaxé, un peu déséquilibré, ou un peu trop sensible, ou un peu trop astralisable. Je disais, bon, mais vous reviendrez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, attendez que votre vie s'efface un peu. Parce que déjà, venir dans un séminaire, ça crée un choc, parce que déjà, il y avait un petit renversement qui était créé pour amener l'homme à la centricité. Donc, si vous amenez une personne qui est totalement sensible, très sensible, et qui n'est pas capable de contrôler au moins modiquement sa vie, sa petite vie de tous les jours, c'est que ça donne quoi de venir dans un séminaire où le bouleversement ou le bousculement va être encore plus grand. Donc, je les mets de côté. Mais au cours des années, les gens me connaissant plus, les gens ayant écouté mon matériel, les gens me connaissant mais un peu plus mesuré, ce tri n'est plus nécessaire. Mais au début, c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de protéger surtout les gens qui sont dans le public. Vous, c'est pas tellement un problème parce que avec vos niaiseries, ça passe bien. Vous pouvez faire passer la plus grande des choses, mais c'est tellement niaiseux, ou ça peut être tellement niaiseux, dépendant comment vous la formulez, que les gens vont le prendre. Donc, ça ne crée pas de remous profond. Ça va simplement engendrer un mouvement, une sorte d'espièglerie qui va entraîner un mouvement éventuel de l'esprit. Mais moi, je suis une personne sérieuse. Je n'ai pas de temps à créer des formes subtiles. Je ne peux pas faire de la fantaisie pour plaire à un public. Donc, à ce moment-là, j'ai une très grande responsabilité face au public. Ce que je dis doit être mesuré. Vous ou d'autres m'ont demandé de parler de la religion. Je ne peux pas, moi, en tant que personne, aller dans un public et accoler la religion au mur d'une réalité évolutive, parce que la religion a fait des choses pour l'humanité évolutive, essentielles, d'ailleurs elle a été là. Donc je suis obligé de respecter la religion. Si on se voit dans le public et qu'on écartille la réalité, qu'on va plus loin dans la réalité des sphères concernant la religion, on peut sortir des choses extraordinaires qui, effectivement, sont réelles, mais qui, sur un public non avisé, créeraient absolument une aberration. Donc, comme je suis une personne sérieuse, que je parle de n'importe quoi, je suis obligé de toujours mesurer ce que je dis. Et que vous pensiez, c'est beaucoup moins intéressant que dans le sens opposé. Me laisser aller à mes glaneries, ce qui serait dans mon cas des bernarderies, ce serait extraordinaire, parce que je manque dans la vie, dans le public, de pouvoir exposer ce que je sais. Pour moi, c'est une sorte de souffrance interne. Je suis obligé de supporter cette condition. Je peux, par contre, l'échanger dans des couloirs fermés. Alors que vous, vous avez le plaisir de faire vos glaneries, vous avez le plaisir, donc vous avez un public léger, vous avez un public sérieux, vous avez toutes sortes de publics. Et moi, je ne peux pas avoir toutes sortes de publics. J'ai, avec le temps, un public qui s'amenuise, et ce sont simplement des individus avec lesquels je travaille. J'ai eu un homme qui m'a appelé de la France dernièrement, un médecin français, qui m'a écrit une lettre parce qu'il avait un problème concernant sa patiente qui était dans un état comateux. Et lui, il est venu dans mon séminaire et il aurait voulu faire quelque chose pour cette personne sur le plan comatique. Et effectivement, on peut faire quelque chose. Mais dans l'état spirituel où cette personne est, s'il commence à travailler occultement sur les plans pour ramener une personne qui est dans un état comatique, il va tellement spiritualiser son énergie, il va tellement perdre de son énergie qu'éventuellement, il va perdre la centricité de sa propre conscience. Donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, ce que la personne vit, ça fait partie de son karma. Traitez-le avec les médicaments, vous avez une science médicale pour aider ces gens-là, et poursuivez votre chemin. Mais c'est pas ce que les gens veulent entendre. Les gens veulent entendre comment ça marche, l'invisible, qu'est-ce que je peux faire avec l'invisible, comment est-ce qu'on peut travailler avec ça. Et les gens ne réalisent pas que travailler avec l'invisible, ça nécessite une force intérieure et une conscience mentale très grande. Si on ne l'a pas, on est mieux de rester dans la matière. Donc je suis dans une position qui est presque diamétralement opposée avec la vôtre. Autant je voudrais avoir des conférences et parler de ce qui vous intéresse, autant je suis obligé de ne pas le faire. Et autant vous aimeriez que je le fasse, autant vous ne pourrez jamais me le faire faire. Par contre, en tant que personne publique qui vous a connu, je dis aux gens, regardez au-delà des glaneries, intuitez ce que vous intuitez, et plus tard, à ce moment-là, s'ouvriront leurs centres, et les gens pourront aller plus loin dans la compréhension, la découverte, l'explication des phénomènes étranges qui font partie de la vie. Anyway.
La troisième raison qui m'a amené à faire des émissions d'ésotérisme expérimental, je l'ai souvent dit, et déjà dans les premières années 79, 78, 77, je disais aux gens, c'est parce que quand on aura passé le cap de l'an 2023, je veux qu'on soit une gang ensemble. Et j'ai entendu Bernard prononcer l'année de l'an 2023, très exactement dans une certaine circonstance intime, provoquer à Bernard la révélation de la raison pour laquelle vous aussi vous avez lancé l'an 2023, alors qu'on ne s'était jamais consulté là-dessus. Nicole a été la première à sursauter, mais il est très évident que le travail qu'on fait fait partie d'un plan qui n'est pas su, qui n'est pas vu. Et tantôt, je disais que j'étais relativement déçu du fait que je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup d'humains capables. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez l'impression d'arriver à l'an 2023 avec une impression de pouvoir dire « mission accomplie ». Parce que mission est accomplie de toute façon.
La mission sur le plan matériel est déjà commencée. Primo. Le mouvement est déjà entamé. Secondo. Et dans le troisième aspect de ce mouvement, il va durer 2500 ans. Donc, inutile de s'énerver. Donc, si on regarde cette année 2023, ça veut dire quoi? 2023, c'est le temps où la conscience de la Terre va se séparer. 2023, c'est le temps où, par exemple, le gouvernement invisible aura, dans le monde, déjà commencé à corriger les abus de l'évolution. 2023, c'est le temps où le personnage, le fameux personnage, n'aura plus besoin de se manifester sur la planète de façon directe. 2023, c'est ce qu'on peut appeler dans le langage occulte la mort du grand inconnu. C'est à partir de 2023 que finalement la Chine, la Russie et les États-Unis vont créer une union mondiale. Donc il y a beaucoup de niveaux dans 2023, il y a beaucoup d'aspects. L'année est intéressante parce que c'est à partir de cette année-là, de ce temps-là, que la conscience de la Terre va commencer à être dirigée. Mais pour que l'homme en arrive à l'évolution dirigée de sa conscience, surtout au niveau du gouvernement.
Dirigée de où, par qui?
À partir de l'invisible. La conscience de la Terre va être dirigée à partir de l'invisible. Les hommes connaîtront la communication télépathique éthérique. Donc, à ce moment-là, la conscience sera dirigée. Mais pour qu'elle soit dirigée, la conscience, il faut qu'il y ait installé sur la planète présentement des réseaux d'énergie, des centres de force. Et ces centres de force, il y en a 7. Il y en a un au Québec, il y en aura 6 autres. Et ce sont ces centres de force, il y en a un en particulier que j'aimerais parler et que je ne parlerai pas trop parce que je sais que tout ce que l'on peut dire concernant l'occulte de la race, l'occulte de la vie sur la planète. Ça ne se voit pas maintenant. Ça ne se saisit pas maintenant. Mais ça se sait maintenant. Si on me demandait quel conseil on peut donner à des gens qui s'intéressent à l'invisible ou à l'occulte, ou whatever, appelez ça comme vous voulez, je dirais que l'homme qui aura conscience demain, de l'invisible, à quelque niveau que ce soit, il sera forcé par les lois de sa propre énergie de perdre tout intérêt occulte face à l'invisible. Je vais vous dire pourquoi. Un homme qui s'intéresse à l'invisible perd de la conscience au profit de la spiritualisation de sa conscience. Donc l'invisible, ce n'est pas un monde ou des mondes qui permettent à l'homme d'élever la conscience. Ce qui permet à l'homme d'élever la conscience, c'est d'amener dans la matière l'énergie dont il dispose dans l'invisible. Donc, si nous regardons l'évolution de l'homme dans les générations qui viennent, L'homme passera de la matérialité à la spiritualité, à la conscience pure. Dans la conscience pure, les dates, les temps, les cycles ne seront plus pour lui d'importance parce que déjà, il aura compris que le lien entre lui et l'invisible, il est déjà établi dans son propre temps. Donc l'homme n'échangera plus ou ne vivra plus son propre temps pour le temps de la Terre. Donc il pourra supporter le grand temps qu'il doit supporter pour en arriver à voir ou à être témoin de ce qui se passe ou ce qui se passera sur la planète.
Les propos que vous tenez, là,
oui.
Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ça. Je suis pas là pour analyser puis faire un test, mais je passe plein de fois, il y a tout le monde, puis je dirai aux gens, vous direz-vous résumer en vos propres mots ce que Bernard vient de dire. Et ça, on s'en rend compte à un moment donné que les gens mélangent ce qui se dit,
oui.
Puis ils confondent des choses.
Oui, mais je vais vous dire une chose intéressante.
Ça fait des Bernardries que vous n'avez pas voulu, vous,
oui.
Qui sont devenus des Bernardries au
oui.
Bout d'année.
Oui, mais je vais vous dire une chose. Moi, je parle, ça fait 10 ans, je parle encore aujourd'hui, je parle à des gens qui me connaissent depuis des années. Et lorsque je leur ai parlé pour la première fois, je leur disais, aujourd'hui ou demain, vous allez penser que vous avez compris. Et dans 2 ans, vous allez réaliser que vous n'aviez pas compris. Et dans 5 ans, vous allez réaliser que vous avez encore à comprendre. Il viendra un temps où vous comprendrez. Mais vous comprendrez dans votre temps. Vous ne pouvez pas comprendre dans mon temps. On a chacun notre temps. C'est pour ça que ce qui fait qu'un travail comme le mien est difficile, c'est qu'on parle dans le vide, mais c'est un vide qui est plein. Moi, je ne suis pas intéressé à ce que les gens me comprennent. Je suis simplement intéressé à parler. Dans le temps, les gens me comprendront parce que dans le temps, ils se comprendront. Une personne, d'ailleurs, quand je ne parle pas à l'intellect. C'est pour ça que les gens ont de la difficulté à mémoriser ce que je dis. Et c'est normal, ça doit être. Mais si les gens veulent comprendre ce que je dis à partir de l'intellect ou du plan psychologique, ils vont réaliser, lorsqu'ils auront un plan psychique développé, que ce que j'avais dit, ce n'était pas ça, mais que c'était ça. Parce que la forme serait totalement différente. Vous parlez aux gens et vous avez le plaisir d'être compris, dans ce sens que vous avez le plaisir d'être reçu. Parce que moi, quand je parle aux gens, je n'ai pas le plaisir d'être reçu, parce que je n'ai pas la capacité d'être compris. Donc les gens ne me reçoivent pas, ils me perçoivent. Mais un jour, lorsqu'ils seront dans leur propre énergie, à ce moment-là, ils pourront me recevoir. Faire ce que je fais, ce n'est pas le fun, ce n'est pas plaisant, parce que ce que je fais, je ne le fais pas pour aujourd'hui, pour demain, je le fais pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je le fais pour l'individualisation de l'homme, je le fais pour le temps où il entrera dans son énergie et qu'il réalisera finalement qu'il n'y a pas sur la Terre, dans les temps où nous entrons, de maître. Il n'y en a plus de maître. Et les hommes qui auront compris qu'il n'y a plus de maître, qu'il n'y a plus de personne dans le monde pour te faire savoir quelque chose. Il y a des gens dans le monde pour échanger avec toi, oui. Mais qu'il n'y a plus dans le monde de gens pour te faire savoir quelque chose parce qu'ils seront dans leur propre énergie. Ce sont ces gens-là qui entreront en communication télépathique avec les forces de la prochaine évolution. Et il n'y en a pas beaucoup. Ce sera, si nous regardons la planète entière, ce sera un homme extrêmement infime. Et ce n'est pas nécessaire qu'il y en ait beaucoup. Mais c'est nécessaire qu'il y en ait quelques-uns.
Et pourquoi, si ce temps-là, les inconscients vont quand même mettre à feu et à sang la planète?
Ça fait partie du karma mondial. Les mémoires de l'humanité doivent être revécues. Ça fait partie du pouvoir de l'astral sur la conscience humaine. Ça fait partie du pouvoir des forces lunaires sur la Terre. Là, il n'est pas en puissance encore. Le soleil s'éveille sur les plans tellurés. Il n'est pas en puissance. Si nous regardons le lac astral qui existe sur le plan 9 de la constellation solaire, nous voyons que ce lac astral est extrêmement agité. Et tant que ce lac ne sera pas totalement calme, qu'il n'y aura plus aucune agitation, le soleil ne pourra pas, sur cette planète, inviter les hommes à une conscience éthérique, mentale, établie dans les réseaux universels de la communication, permettant aux hommes de communiquer habilement, intelligemment, scientifiquement, avec ce que vous appelez dans vos glaneries les extraterrestres. La fascination ne doit plus exister. Et quand la fascination existe, il y a une partie de l'homme qui est manipulée, manipulable par l'autre homme. L'homme doit être intégral. Et les hommes qui auront une conscience intégrale, qu'ils viennent de quelque pays que ce soit, Ce seront ces êtres-là qui travailleront avec ces forces. Ce ne sera pas à l'échelle mondiale. Mais les flux, le courant, le mouvement, l'énergie qui viendra de cet ordre créatif aura des conséquences sur l'évolution de la Terre.
Est-ce que Bernard peut nous dire pourquoi lui parle de tout ça?
Je parle de tout ça parce que je le sais. Je parle de tout ça parce que ça fait partie de ma conscience créative. Je parle de tout ça parce que ça permet à l'homme d'ajuster sa vision, ça permet à l'homme d'ajuster son intuition, ça permet à l'homme de dépasser les formes subjectives. Parce qu'ils le voient de leur point de vue, ils le voient de leur insécurité, ils le voient à partir du manque d'identité qu'ils ont. Mais le bonhomme qui est dans son énergie, dans son identité, il ne vit plus le phénomène. Comme je dis souvent dans mes cours, un petit verre plein, c'est tout ce qui plaît qu'un grand verre plein. Donc si le petit verre plein va être aussi grand que l'autre verre plein, il perd son temps, c'est une illusion. S'il est plein, lui, chacun ses capacités. Tous les hommes n'ont pas la capacité de vivre une fusion dans un même mode d'expression, c'est normal. Les hommes sont tous différents. Les hommes ont différents statuts. Il y a des hommes qui viennent de certaines planètes, il y a des hommes qui viennent d'autres planètes. Il y a des hommes qui viennent du monde de la mort. Il y a des hommes qui ne viennent pas de la mort. Donc, le phénomène humain est tellement occulte, autrement dit, tellement voilé, que venir avec ceci dans le monde, ça nécessite que les gens soient lentement, graduellement, petit à petit. Je vais vous dire une chose. Si les gens étaient réellement dans leur identité, si les gens étaient réellement libres des besoins de vivre l'imagination, la fantaisie, je pourrais avec vous m'asseoir pendant des années de temps et parler. Et il y a des gens dans la salle qui sont capables de vivre et d'aller chercher dans une conversation entre vous et moi des aspects qui font partie de leur savoir. Que nous parlions d'extraterrestres, que nous parlions de ciel, ou que nous parlions de ça. Nous devrions, vous et moi, avoir la capacité de parler de n'importe quoi. De n'importe quoi. Mais si les gens disent, ah, mais Bernard, ce soir, il n'a pas parlé des extraterrestres, ou Bernard n'a pas parlé de ceci, ou Bernard n'a pas parlé de cela, à ce moment-là, ce sont des gens qui vivent trop sur le plan de l'imagination. Ils vivent sur le plan de l'imagination, ils ne peuvent pas entrer en harmonie vibratoire avec une conscience supramentale. Donc, ils perdent un niveau de conscience mentale des choses qui sont réelles, qui sont fondamentales et qui mènent à d'autres choses. Mais ça, on n'y peut rien. Moi, je ne peux pas ajuster le public à ma conscience. C'est le public qui doit s'ajuster à sa propre conscience pour qu'un jour nous puissions parler et voir que dans un dialogue créatif entre deux hommes conscients, il n'y a plus de fin, il n'y a plus de limite. Ce sont les conditions, ce sont les impositions que le public nous donne ou nous fait qui fait que ça coupe la vibration.
Bernard, maintenant, s'engage dans des œuvres littéraires. De plus en plus, ce sera littéraire.
Oui. J'ai regardé, justement, des textes parce que j'ai donné la permission qu'on publie mes cassettes que j'avais gardées fermées depuis des années.
Qu'ils soient publiés par écrit.
Qu'ils soient publiés par écrit. Et je regardais ces textes hier. Et vous savez une chose? Lorsque je lisais les textes, c'est bourré de matériel. Et c'est intéressant à lire, parce que la personne qui lit ça, il y a plus contact avec la parole que... Parce que la parole, elle s'envole. Alors que ces textes-là, ils sont là, et comme ils ont été parlés dans des situations où j'avais une certaine liberté d'expression, il y a beaucoup de matériel intéressant. Et maintenant, petit à petit, je vais tout convertir les 700, 800 cassettes que j'ai faites pendant des années, dans du matériel livresque. Et le livre, il reste, il va rester. Et le livre, lu, a une autre vibration que la cassette ou la parole écoutée.
Ça va permettre d'alimenter des feux de joie qui seront allumés en 1998.
Ça va permettre de quoi?
D'alimenter les feux de joie qui seront faits en 1998, lorsque la littérature sera interdite.
Sera quoi?
Interdite.
La littérature sera interdite?
Sauf ce qui sera prôné par le système. Car on dira aux gens comment penser.
Mais d'où vous avez ces notions? D'où vous avez ces notions?
Comme ça s'est fait à l'arrivée de chaque grand faux messie, Napoléon ou Adolf Hitler, ou le prochain qui est déjà en marche.
Non, la littérature ne s'éliminera pas, parce que la littérature, d'ailleurs la littérature n'a jamais été éliminée. Pour quelle raison? Parce que la littérature écrite...
La bibliothèque d'Alexandrie.
Oui, mais ça n'a pas empêché que...
Ah ben non, ça n'empêchera pas qu'il en reste à travers le lot, c'est sûr.
La littérature existera toujours parce que un matériel, un texte écrit n'est pas magnétisable, il n'est pas démagnétisable. C'est très dangereux, ce serait très dangereux pour une civilisation de tout mettre son matériel écrit sur bande magnétique. Très dangereux. Alors que sur le papier, tu peux le brûler, mais brûler, il y a des livres de partout qui se promènent dans le monde. Donc. D'ailleurs, le livre écrit, c'est la grande sécurité de l'humanité. Si l'homme aujourd'hui, si un gouvernement aujourd'hui voulait tout mettre l'information dans des bandes magnétiques, ce serait très dangereux pour l'évolution de l'homme. Deux raisons. Premièrement, parce que ce matériel-là pourrait être manipulé. Et deuxièmement, parce qu'il pourrait être démagnétisé par des intelligences qui sont sur d'autres plans. Pour plonger l'humanité dans une oblivion totale.
Ben, c'est d'ailleurs l'intention de ceux qui se préparent à passer à l'action. À partir de 1993.
Ça fait partie encore de vos spéculations. Vos spéculations sont intéressantes, mais vos spéculations, vous êtes extrêmement spéculatif, vous savez. Un homme comme vous, c'est un homme qui n'a pas de limite sur le plan de spéculation. Vous auriez pu être un cartooniste extraordinaire, vous auriez pu dire... Moi, je ne peux pas... Il y a des choses que vous dites que je trouve intéressantes parce qu'elles sont comiques, mais puisque je suis un homme sérieux, je n'y mets pas trop de poids.
Au-delà de ces livres qui sont écrits à propos des textes de Bernard, il y a aussi Bernard, homme d'affaires.
Oui. Oui. J'entre dans une phase de ma vie où ce que j'ai expliqué dans le cadre fermé des conférences ésotériques ou occultes, appelez ça comme vous voulez, dans le cadre de l'explication de la conscience supramentale, maintenant, je veux l'appliquer dans le cadre de la vie planétaire, au niveau de l'industrie, au niveau du gouvernement, au niveau des organisations humaines. Et c'est la deuxième phase de ma vie. La première phase, ça a été celle où j'ai parlé en public. La deuxième, c'est celle où je travaillerai en public. Et la troisième, c'est celle où je ne serai plus public. Et cette phase est très importante parce que l'humanité, les gouvernements, les industries, où façonne l'humanité, où travaille l'humanité, ont besoin, à travers leur chef, ont besoin de connaître et de comprendre des principes de civilisation basés sur une conscience créative. Et le mouvement, mon déplacement dans cette sphère maintenant, fait partie de ma nouvelle vie. Et effectivement, demain, on dira, Bernard de Montréal, c'est un homme d'affaires, c'est un homme, et effectivement, je serai un homme d'affaires. Mais le monde de l'affaire sera simplement une forme qui servira encore à canaliser et amener plus loin dans la terre de l'homme cette énergie créative, en faisant vibrer les racines industrielles, en faisant vibrer les racines gouvernementales pour amener une nouvelle conscience. Je m'en vais en Haïti bientôt. Et Haïti, je suis en train de construire ce que j'appelle un club privé en Haïti. C'est un complexe hôtelier. Il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi Haïti? Le vaudou en Haïti, Bernard de Montréal en Haïti, ça ne semble pas concorder. Et pourtant, une personne qui serait occulte, ou qui aurait une compréhension occulte de l'homme, réaliserait que la terre haïtienne, c'est une grande terre spirituelle, une grande terre mystique. Le peuple humain, c'est un peuple qui n'a plus d'identité autre que dans sa voie religio-mystique. Et le gouvernement est en train de graduellement démocratiser la conscience sociale. Donc, il y a déjà en Haïti une place pour une énergie comme la mienne, pour amener petit à petit de la lumière dans cette grande noirceur sensibilisée aux forces astrales spirituelles. Et mon contact avec des gens là-bas va permettre aussi de jeter de la lumière sur leur forme de religion, d'éclairer la masse haïtienne au niveau de l'emprise religion, mais aussi au niveau de sa fonction. Donc, l'homme conscient, il ira tout partout dans le monde. Il amènera son énergie, il la placera dans le monde. Et avec le temps, cette énergie-là créera ce qu'elle aura à créer. En même temps, si nous regardons ceci d'un point de vue purement matériel, ça permettra à des gens qui ont une certaine sensibilité, qui sont, comme vous dites, sur une certaine longueur d'onde, d'aller se reposer dans un paysage qui est très retiré, parce que quand je parle d'Haïti, il y a effectivement à Haïti beaucoup de pauvreté et des endroits qui sont difficiles. Mais là où j'ai situé ce site, c'est très beau. Et ça permettra à des gens qui ont une certaine sensibilité d'aller se reposer l'hiver, ou parce que l'hiver québécois est très difficile, ça leur permettra de se reposer pour une semaine ou deux semaines, ainsi de suite, au lieu d'aller dans les grands hôtels ou dans les centres touristiques à l'international, qui deviennent de plus en plus des trappes touristiques et des endroits qui ne sont plus plaisants, qui sont trop ombragés, parce que le tourisme n'est pas respecté, il y a trop d'exploitation, trop de vols, ainsi de suite. Donc ce sera réellement fermé, mais pas simplement fermé à des gens qui font partie d'un certain acabit ésotérique, mais réellement ouvert aussi à des gens d'une grande sensibilité. Il y a des gens dans le monde qui ne sont pas, qui n'ont pas fait cette démarche, mais qui sont bien, qui ont une sensibilité. Donc ces gens-là pourront être parrainés et aller aussi se reposer dans un endroit où finalement ils auront la paix. Ce sera tranquille, la vibration sera bonne. Et après deux semaines de vacances, ils pourront revenir chez eux dans leur pays et continuer à travailler.
Pourquoi deux semaines?
Ben, trois semaines. Il y en a qui resteront plus longtemps, quoi. Et ça dépend de la vocation de chacun. Oui. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai promis depuis des années à tous les gens que je connais. Et il faut que je le réalise. Et je vais le réaliser malgré tous les obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Il n'y a pas d'infrastructure en Haïti. Et ces gens-là parlent une langue qui est très différente de la nôtre, bien que ce soit une langue qui soit connectée au français. Déjà, aussi, ça c'est bon, parce que au moins on sent qu'on est chez nous. Mais il y a des problèmes techniques énormes, mais ils vont être résolus.
Les nègres blancs d'Amérique vont retourner leurs cousins.
Pardon?
Les nègres blancs d'Amérique.
Les nègres blancs d'Amérique, oui.
Bon,
ce sont les Québécois.
Vont retrouver leurs cousins.
Ils vont retrouver leurs cousins. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Ah, ouais. Il y a certainement de la couleur dans votre mental. Hein?
Toujours. Ça fait partie des glandes. Alors, on a fait à peu près le tour d'horizon de cette fin de cycle avec Bernard en public, en conférence, avec Glenn. Ça se finit au mois de mai 1989. Et là, pour de bon. Les autres rencontres en public se feront à travers les émissions de télévision probablement, où on présentera Bernard sur un nouvel aspect, c'est-à-dire en table ronde, comme on le fait actuellement dans les émissions, où deux, trois autres personnes, ou ayant lu le livre de Bernard, ou ayant assisté à des conférences, ou ayant fait des cheminements, ne seront pas confrontés, mais rencontreront Bernard pour essayer de chercher en dessous.
Ouais, nous sommes rendus à un point où tout ce que j'avais à dire sur le plan psychologique a été fait. Maintenant, nous sommes rendus à un point où nous devons rencontrer des hommes qui sont dans le monde, des hommes qui sont dans la politique, qui sont dans les affaires, qui sont dans la science, qui sont dans la religion, qui sont le plus possible enracinés dans le monde. Pas nécessairement des hommes qui sont dans l'occultisme ou l'ésotérisme, j'en ai ras-le-bol de l'ésotérisme. Mais des hommes qui sont dans le monde et qui façonnent le visage de la civilisation. Et des rencontres avec des gens comme ceci, ceux-là, seront intéressantes parce que ça permettra d'amener une conscience nouvelle à une intelligence déjà sensible. Parce que ces gens-là sont déjà des gens actifs.
Mais moi, je me demande comment Bernard, sur un bureau d'homme d'affaires, réagit. Comment il peut se servir du supramental pour agir?
La conscience supramentale, c'est une conscience créative, donc elle s'applique à n'importe quoi. La conscience supramentale s'occupe ou pénètre toutes les sphères de l'activité humaine. C'est une conscience créative, la conscience supramentale.
Tu sais, je vais assez catégorique avec Bernard au Montréal. Bon, une mère, papa retiré de l'école parce qu'il n'est pas vacciné. Les examens de fin d'année sont mis en otage, c'est-à-dire s'il n'est pas vacciné avant le 10 juin, il ne passera pas ses examens de fin d'année, donc il va rater son année scolaire. Alors Bernard de Montréal est consulté. Bureau de consultation, Bernard de Montréal, qu'est-ce que je dois faire? Mes enfants doivent-ils être vaccinés? J'ai appris qu'il y en a qui sont morts suite à des vaccinations. Mon enfant a déjà très mal réagi en bas âge à des vaccinations. Je ne veux pas qu'il soit vacciné.
Ce ne serait pas, je ne répondrai pas à des questions directes. Autrement dit, je ne m'impliquerai pas dans un jugement médical. Ce que je ferais, par exemple, si j'avais à répondre à cette question, je le ferais d'une façon indirecte en réunissant des gens qui sont dans le monde médical. Et là, je parlerai du phénomène de la vaccination dans le monde médical. Je parlerai du phénomène de la conscience des virus. J'établirai je démontrerai les centres de résonance des virus, parce que les virus existent, ils ont des habitations. Le corps humain, c'est un monde, c'est un espace matériel qui est extrêmement sous le contrôle des forces élémentales. Donc, avec des médecins qui ont une certaine sensibilité, nous explorerions le monde viral et nous pourrions, s'ils ont des laboratoires, faire des études ou faire des expériences dans le monde, dans ces laboratoires, à partir de données qui seraient issues d'une conscience supramentale créative.
Êtes-vous intéressé à rencontrer de ces gens-là dans mes émissions, c'est-à-dire une table ronde avec trois biologistes?
Ouais, je ne dis pas non à rien. Il y a un temps, il y a mon temps, il y a le temps. Ouais. Je ne dis pas non.
Ça peut être un type de formule.
Tout se fait dans le temps. Je ne dis pas non à rien. Tout m'intéresse. Tous les hommes m'intéressent. Toutes les activités m'intéressent. Seulement, il y a un temps. Je ne peux pas non plus, moi, me surcharger. Je suis déjà très chargé.
On dirait que Bernard essaye de...
J'essaie toujours de travailler le moins possible, oui.
Alors c'est ça, je me pose la question sur le plan très concret terre-à-terre. Être branché sur le supplémentaire, est-ce que ça donnera les réponses aux questions que des gens pratiquent essaient de trouver depuis des milliers d'années?
L'homme a été donné beaucoup de réponses en ce qui concerne la conscience depuis des années. Le domaine de la psychologie supramentale a été très développé et ça c'est une phase qui est faite. Ensuite viendra le domaine de la conscience sociale. L'homme au travail, l'homme au gouvernement, l'homme en science. Et ensuite, dans une troisième étape, viendra la...
Alors, dans la deuxième étape, c'est social, je vous vois une table ronde avec Chartrand, Vimbard, Parizeau de l'autre bord, et puis...
Mais il faut que ce soit des gens intelligents. Je ne dis pas, ce n'est pas un jugement sur ceux que vous venez de nommer. Je ne m'assoirai jamais à une table avec des gens qui ne sont pas intelligents. Et intelligent, pour moi, ce sont des hommes ou des femmes qui savent échanger, qui savent parler et qui savent surtout écouter. C'est un signe d'intelligence. Sinon, ça devient la guerre des égaux, qui devient la guerre des boutons. Et moi, je n'ai pas de temps à perdre. Il y a trop de gens dans le monde intelligents pour perdre mon temps avec des gens qui ont une intelligence ambivalente et qui ont simplement des points à prouver pour se donner un peu plus d'égocentricité. Suivant là, je ne suis pas intéressé. Des gens dans tous les domaines qui sont intelligents. J'ai rencontré dernièrement un médecin qui est extraordinaire, qui est très intelligent, très, très intuitif. On peut faire des choses énormes avec ce bonhomme. Donc, dans tous les domaines, il faut qu'il y ait de l'intelligence créative. Si ces gens-là sont trop égocentriques, il manque de centricité. Je le serai et je ne parlerai pas avec eux. Je n'ai pas de temps. Je préfère parler avec des gens qui sont simples dans la rue, qui ont de l'écoute, qui ont un bel esprit, que des gens qui sont bourrés de diplômes et qui n'ont pas d'esprit, qui ont simplement de la mémoire. C'est ça que j'ai beaucoup, pendant les années, aimé le public. J'ai beaucoup aimé les gens simples. Effectivement, les gens simples m'ont très fatigué parce qu'ils sont réellement... questionneux. Ils sont très... Malgré eux-mêmes, ils veulent avoir des réponses à ceci, puis des réponses à ça, et ils ne réalisent pas que ça prend des années pour en arriver à une certaine conscience. Et ça, c'est normal. Mais au moins, ils ont de l'esprit. J'ai beaucoup aimé le public. Je l'aimerai toujours, le public. Mais maintenant, il faut que j'aille dans un autre public plus serré. Donc, travailler avec le monde, dans le monde des affaires, de l'industrie, du gouvernement, des différentes nations, c'est très intéressant. Donc, cette structure que je monte et que je parraine, elle fait partie du cadre dans lequel je vais exercer cette nouvelle vie.
Parce que le thème de ce groupe s'appelle le groupe Zenor, Z-E-N-N-O-R. Si vous lisez en anglais, ça fait Ronnie. Vous allez Ronnie le monde?
Nous avons appelé ça Zenor parce que Zenor, dans Zenor, il y a Zénith, le point le plus élevé à l'horizon. Or, il y a de la conscience créative à l'intérieur d'une industrie. Donc, le Québec, dans un sens, c'est le point au nord, dans le Zénith le plus élevé, où il y a une conscience créative qui est organisationnelle, qui est dans l'industrie. Que si nous parlons à des industriels ou si nous sommes dans le monde industriel, il y a une vibration dans nos relations qui est créative.
Il y a déjà une douzaine d'entreprises reliées au groupe Zenor. Est-ce que vous lancez un appel à tous ceux qui ont des petites entreprises, moyennes et petites entreprises, de vous contacter, peut-être pas vous directement, mais s'ils veulent se joindre à ce joint venture de toutes les entreprises qui font partie du groupe Zenor?
Ce n'est pas facile de se joindre au groupe parce que le groupe, pour qu'une personne se joigne au groupe, il faut qu'elle ait un programme réellement solide. Sinon, les gens qui s'occupent de cette sélection vont le mettre de côté. Les gens qui sont dans cette organisation sont spécialistes dans leur domaine, connaissent les affaires, et si quelqu'un vient K1, K1 pour se greffer à cette organisation, ils ne pourront pas tenir le coup. Le travail puisse avoir une mesure précise de ce que ce bonhomme est capable de faire, de ne pas faire, où sont ses aptitudes les meilleures, mais basé sur la vérification psychique de son potentiel, au lieu d'être basé sur des mesures de comportement social. Comme rentre dans ton bureau, tu le sais. Ben, il est bon pour ceci, 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 ceci. Il n'est pas bon pour cela. Il est fantastique pour cela. Donc l'industrie a besoin de ceci. L'industrie souffre beaucoup aujourd'hui. Et quand vous engagez des gens, que vous payez des salaires, que vous avez des attentes, que ces gens travaillent avec le public doit être respecté dans ses rapports avec l'industrie, avec les magasins. Vous allez acheter quelque chose, il faut qu'il y ait de l'échange, faut qu'il y ait du... Donc il y a des principes qui doivent être amenés. Il y a des nouveaux modes de mesure qui doivent être intégrés. Et ce n'est pas facile de faire comprendre des présidents ou des vice-présidents de compagnie que, effectivement, on peut utiliser telle science, qu'on peut vérifier par telle science les mesures et les aptitudes de certains individus. Et nous sommes arrivés à un point dans la province de Québec où nous avons besoin de ceci. En Europe, ça se fait. Aux États-Unis, ça se fait.
Côté des médecins douces, chromothérapie, acupuncture.
Bon, regardez les médecines douces, regardez. La médecine est en voie d'évolution. Elle est en voie d'évolution. Elle est en voie de perdre son pouvoir patriarcal. Elle va maintenir son mouvement global, institutionnel. Les médecins s'individualisent. Les médecins aujourd'hui, les jeunes médecins aujourd'hui n'ont plus l'orgueil du médecin d'antan. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus près de la démocratisation de l'esprit qu'il y a 25-30 ans. Donc ces jeunes médecins-là ne sont pas intéressés à être bernés. Parce que l'idée que ce que nous enseigne l'université, c'est final, c'est dépassé. Le monde est en voie d'évolution, la télévision, les journaux, toute l'information qui vient dans le monde. Donc, ces jeunes médecins, ils ont l'oreille, ils regardent, sont venus des sciences comme l'acupuncture de l'Orient, sont venus d'autres choses. Il faut que ces sciences se perfectionnent, s'ajustent, se purifient dans ce sens qu'elles se scientifisent. Pour que la médecine traditionnelle puisse les absorber, parce que la médecine doit se prémunir, empêcher que la masse soit charlatanisée. Très facile, vous savez. C'est très facile. Et je sais très bien, et j'ai rencontré dans mon expérience des gens qui travaillent dans le domaine des médecines douces, des médecines parallèles, tout ce qui est marginal. Et j'ai vu beaucoup d'astralisation. J'ai vu des gens donner des pilules ou des médicaments à des gens par centaines de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont, ils n'ont pas de système. Un médecin, il est supporté par son système. Sa vie financière n'est pas mise en danger. Il n'est pas en survie. Mais vous avez ce petit bonhomme-là qui est en survie, qui est tout maigre, qui est tout vert, qui vend des pilules de santé et qui a de la misère à se nourrir. Qu'est-ce qu'il va faire là? Au début, oui. Au début, il va être spirituel, il va vouloir aider l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il va faire après 10 ans? Il va vouloir survivre, il va vouloir vivre. Et c'est là qu'on voit des, on voit de l'abus. Les gens qui font des passes magnétiques, passe, 75 dollars pour se faire passer les mains sur le corps. Ouais, puis encore, ça dépend où, oui. Mais admettons que c'est sur le corps. Là, ça dépend d'où, ça fait partie de vos gaineries. Moi, je ne pense jamais si loin que ça. Mais c'est beaucoup d'argent, vous savez. Et le pire, c'est que qui va aller vers ces gens? C'est le petit bonhomme intuitif, sensible, naïf, spirituel. Pas moi, peut-être pas vous, mais les gens là qui ont un... Vous parlez de ma guerre. Quelle est ma guerre? Ma guerre, elle est contre l'abus ésotérique occulte de l'homme par l'homme spiritualisé. Elle est ma guerre. Je sais beaucoup plus que personne le danger que vit l'homme par rapport à ces individus qui n'ont pas suffisamment intégré leur énergie, qui ont des voiles et des illusions et qui ont de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Comme aussi, à l'inverse, un système peut devenir paré de bonnes intentions et astralisé.
Effectivement, c'est le mouvement. C'est le mouvement de l'esprit vers la matière, c'est la descente de la vibration, c'est la perte de la lumière, c'est la perte de l'intelligence. Et tout ceci est comme ça. Combien de personnes ont commencé les choses avec une bonne intention et se sont retrouvées des années après, boum, parce qu'ils n'ont pas été capables de supporter cette énergie. Elle a été spiritualisée, elle a été voilée, elle a été illusionnée. Il faut être très conscient pour supporter la conscience. Pour revenir au travail que vous faites, ce que vous amenez dans le public, les gens, si on prend un conseil de ma personne par rapport à ce que vous faites, c'est que les gens vous prennent avec un grain de sel, que les gens vous prennent relax, que les gens voient ou intuitent ce que vous voulez dire, mais que les gens ne vous prennent pas avec les mots comme si c'était catégorique, parce que sinon, ils vont demeurer accrochés à vos idées, à vos paroles, et ils ne pourront jamais s'accrocher à eux-mêmes, et vous finirez, d'une façon ou d'une autre, par être suivi par un grand nombre de personnes qui ne seront pas capables d'entrer dans leur identité. Et un jour, vous-même, vous aurez besoin d'aller plus loin dans vos explications, dans votre savoir, dans le public. Vous ne pourrez pas indéfiniment jouer le clown. Vous ne pourrez pas indéfiniment jouer de la glainerie. Vous êtes jeune, vous avez la force, vous n'avez pas la responsabilité psychique que moi j'ai, donc ça vous donne de l'espace. Mais viendra un temps, et je peux vous le dire aujourd'hui, quand va venir ce temps, où vous serez obligé de passer à un autre niveau. Mais vous aurez fait ce que vous aurez fait, aura été expliquée la conversion de vos idées en énergie dans le public, permettant aux gens d'aller plus loin que le mode que vous avez utilisé pour les amener à voir plus loin. Le public, en tout cas vu de ma personne, vu à travers mes yeux, le public est toujours une entité collective, fragile, délicate. Et le public, ce n'est... Aimer le public, c'est l'amener à sortir de son esprit public. Entretenir son esprit public indéfiniment, comme font les stars d'Hollywood. Le sortir de son esprit public, effectivement, il faut aller au début dans le public, parce que les hommes sont dans le public. Mais tu les sors lentement, donc avec les années, tu as des individus qui sont un nouveau public, un autre public, mais avec lesquels tu peux faire des choses d'un autre ordre que tu ne pouvais pas faire avant. Donc les gens qui sont dans le monde, qui travaillent surtout dans le domaine que vous travaillez, doivent être aimés, doivent être protégés. Ils ne peuvent pas, eux, se protéger. Vous imaginez un homme comme moi qui a la parole comme je l'ai? Un homme ne peut pas se protéger contre ma parole. Je la fais vibrer comme je veux. Je suis un maître de la parole. Donc, il faut que cette protection vienne de ma personne. Donc, il faut qu'elle vienne d'un centre qui n'est pas fondé sur l'orgueil. Il faut qu'elle vienne d'un centre qui est totalement centrique, c'est-à-dire uni à la source. Il faut qu'elle vienne d'un centre qui a vu les différents miroitements de l'astral et passé. Ensuite, l'homme peut aider l'homme. Mais c'est ce qui va se passer au cours des générations. Nous dirons des choses, nous écrirons des choses dans le domaine de la politique, de la science, de la ci, de ça. Et les hommes verront finalement qu'il y a sur la terre des hommes qui voient loin, mais au moins ils seront arrivés à un niveau d'identité qui leur permettra de ne pas prendre les paroles pour la forme et de regarder derrière. Parce que je suis absolument
parce que cette organisation, elle vibre énormément et il y a des lois internes, créatives, vibratoires, qui tiennent tout ceci ensemble. Ces gens-là ne pourront pas tenir le coup. Par contre, si ce sont des gens qui sont solides, à ce moment-là, ils pourront bénéficier d'un rapport avec l'organisation et l'organisation aussi pourra bénéficier de leur expérience. C'est un échange. Tout est basé sur un principe d'échange. Mais il ne faut pas venir dans cette organisation sur une base de charité psychologique ou de charité financière. Il faut être créatif. Il faut savoir où on s'en va.
Vous ne prêtez pas de l'argent?
Si nous prêtions de l'argent, ce serait pour des raisons créatives, oui, et non pas pour des raisons passives.
Oui, mais ici, la raison d'être, le concept total, c'est la mise en œuvre de systèmes de distribution de produits de santé.
Et ça fait partie d'une des organisations.
La compétition aux produits de Jean-Marc Brunet?
Non, vous savez, je vais vous dire une chose intéressante.
Vous entrez dans un monde vorace.
Quand vous entrez dans le monde, à partir d'une conscience créative, vous n'êtes jamais en concurrence. Le principe de la concurrence fait partie du principe évolutif des affaires. Il ne devrait pas y avoir de concurrence dans le monde. Si l'homme suivait sa vibration, si le chef d'entreprise suivait sa vibration, il irait où son énergie le mène, mais comme l'ego est là, il bloque l'énergie, l'homme est obligé de devenir concurrentiel. Donc la lutte commence, c'est l'astralisation de l'argent. C'est l'astralisation de la business,
le pouvoir,
le pouvoir.
Vous existez parce que vous aimez faire ce que vous faites, peu importe qu'il y en ait d'autres qui le fassent à côté, vous dites, nous autres, on va être différents, puis les gens choisiront par la différence, par la créativité.
On doit coexister dans le monde, on doit travailler avec d'autres dans le monde. D'ailleurs, si une personne se rapprochait trop de la vibration de cette organisation, elle serait obligée par vibration de connecter avec elle, parce que c'est là qu'elle trouverait une mesure plus probable de sa propre évolution. Donc, on ne peut pas être concurrentiel. D'ailleurs, c'est ce que je reproche, c'est ce qui m'attriste un peu. Vous dites souvent, vous faites des glaneries, souvent concernant ma personne dans la province de Québec. Vous dites, ah, ben, il y a des petits Bernard. Il y a des gens dans la province de Québec qui ont une grande sensibilité, qui ont des choses à faire, qui ont des choses à dire à leur niveau, selon leur expérience. Et ils se trouvent une niche. Et plus l'homme va évoluer, plus l'homme conscient va ressembler à l'homme conscient. Donc c'est très normal avec l'évolution qu'on voit des gens parler dans un cadre ou dans une forme qui ressemble à la mienne. Pourquoi? Parce que ça fait partie de cette conscience supramentale, de cette conscience créative. Mais ce qui est malheureux, c'est que les gens, qui, sauf quelques exceptions, n'ont pas la facilité mentale ou le plaisir mental de venir me rencontrer, parler avec moi, me dire « Ah, mais je fais ça, voilà. » On dirait que c'est comme s'ils vivent par rapport à une certaine concurrence, une compétition. Et ça, c'est une illusion.
Une guerre de clochers ésotériques.
Pardon?
Une guerre de clochers ésotériques.
Comment vous appelez ça, une guerre de clochers ésotériques?
Chacun a la petite église.
Et ce sont des gens merveilleux. Et les gens merveilleux, ou les gens qui sont intéressants, créatifs, sensibles, qui ont de l'intelligence, devraient se rencontrer. S'il y a des gens qui devraient former une table ronde, ce sont ces gens-là.
Ouais.
Ça fait peut-être la première.
Il y en a un qui a osé venir dans mes séminaires. Vous n'êtes pas venu parce que je n'ai pas voulu que vous veniez. Pour des raisons vibratoires. Et il y en a un qui a osé venir dans mon séminaire. Et ça l'a pris des mois et des mois et des mois avant qu'il se décide. Finalement, quand il est venu, il était content. Donc ça lui a pris un certain courage. Pourquoi un certain courage? Pourquoi ce ne serait pas facile de rencontrer des gens comme vous, comme moi et comme d'autres? Ça devrait être facile. Donc, il y a encore trop d'ego dans la conscience ésotérique. Et c'est très dangereux parce que de l'ego psychologique, c'est une chose. L'ego qui est occulté, qui entre dans des domaines parallèles, qui explique les choses du monde invisible, le subconscient de l'homme, c'est très dangereux parce que ça mène au pouvoir. Et si j'ai un mot à dire en ce qui concerne mon appréciation avec votre personnage, c'est que bien que vous ayez de la fierté, vous n'avez pas d'orgueil. Il y a une différence entre les deux. La fierté, qu'on ait de la fierté, ça c'est normal. L'homme qui n'a pas de fierté, il se défait. Alors que l'homme qui a de l'orgueil a l'impression d'être intelligent. Et un homme qui a l'impression d'être intelligent, qui se croit intelligent, peut-être, surtout s'il est dans le monde de l'occulte, peut-être serait dangereux pour des gens qui viennent vers ces êtres-là pour avoir un peu de lumière, un peu d'intelligence, un peu de conscience créative. Donc vient le pouvoir et c'est là l'astralisation de l'homme. Et nous vivons dans un temps où l'astral devient de plus en plus puissant. Et d'ailleurs, je suis très conscient qu'au Québec, il y a des individus qui sont suffisamment astralisés pour chercher à créer de l'ambivalence, même dans mon propre personnage. Mais ça fait partie de leur expérience. Je n'irai jamais en guerre contre l'homme, mais l'homme lui-même, de par sa propre inconscience, se servira ses propres plans. Mais c'est dommage que ces gens-là ne se rencontrent pas autour d'une table ronde, que nous ayons cette élite ésotérique, si vous voulez, qui ont fait de la recherche, qui sont avancés, qui ne puissent pas se rencontrer ensemble et avoir vous comment vous appelez ça à la télévision, moniteur ou animateur. Donc c'est dommage, parce que c'est la population qui manque de quelque chose. C'est la population qui manque.
Moi je veux dire à ce titre-là, Bernard, que la plupart du temps, c'est pas ces gens-là qui ont reculé mes invitations, ils ont toujours accepté. C'est seulement Bernard qui a toujours reculé l'invitation, parce que c'est pas le temps. C'était jamais le temps de recevoir Bernard en studio. Maintenant, là, tout le monde est au courant que ça va arriver cet automne.
Oui, les gens, donc...
C'est un petit Bernard, ça.
C'est un petit Bernard dans un sens que il grandit. C'est un type qui est sensible, c'est un type qui est insécure, c'est un type qui vit un grand mouvement d'esprit, et avec le temps, les années, il en arrivera à centrer son énergie, donc...
Le petit Bernard, là, il y a Claude Bohémier aussi qui est un petit Bernard.
Claude Bohémier, c'est un petit Bernard. Bon, ça fait aussi. Ça, ouais, mais c'est Claude Bohémier, c'est Claude Bohémier.
Daniel Kemp, c'est un petit Bernard qui a commencé à parler plusieurs années après que Bernard ait parlé de cette façon-là de supramental, de conscience.
Oui, mais la conscience supramentale se manifeste d'une certaine façon, donc elle est universelle. Que vous soyez aux Indes, en Amérique du Sud, la conscience supramentale se manifestera toujours dans une même modalité. Mais donc le problème n'est pas avec le rapprochement des termes. Le problème est avec la personnification égoïque de cette science vibratoire. Il est là le problème. C'est évident qu'on parle de vibration, on parle de vibration, on parle de conscience créative, on parle de conscience créative. Comment on a défini la vibration? Comment on a défini la conscience vibrative? Comment on définit l'ego, l'astral, le mental? Ça dépend de la vibration de chacun. Et c'est là que nous pourrions ajuster la vibration de ces gens-là. Autrement dit, si ces gens-là se rencontreraient ensemble et que nous parlions, disons, je ne sais pas moi, du phénomène extraterrestre que vous aimez, bon, nous pourrions le parler en fonction de leur vibration, nous pourrions ajuster leur vibration, autrement dit, nous pourrions perfectionner la forme pour faire sortir de cette forme un plus grand entendement qui déjà serait bien reçu par eux parce qu'il fait déjà partie de leur savoir mais qui est voilé. Mais si les hommes ne se rencontrent pas, vous savez une chose, jamais un homme ne pourra supporter seul la totalité de la science du mental. La science du mental, elle passera par des centaines de cerveaux, par des centaines de radis, chacun à sa fréquence, mais chacun harmonisé universellement. Donc, si un radio n'est pas suffisamment ajusté parce qu'il n'y a pas suffisamment de compréhension, il n'y a pas suffisamment de dépassement des voiles, il y a, pour quelque raison que ce soit, à ce moment-là, dans un colloque qui représente une certaine neutralité de conscience créative, ah, ce cerveau peut dire, ah ben, ouais, j'avais pas vu ça. Mais à partir de tout ce mouvement créatif qui constate, il faut qu'il y ait de la transparence. Moi, je suis suffisamment transparent pour m'adonner avec tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème de parler avec le monde. Mais ces gens-là ont une valeur créative qui doit être amenée à communiquer avec toutes les autres valeurs créatives pour que, au cours des générations, cette conscience supramentale et tout ce qui peut en sortir et qui n'a pas été dit puisse servir une majorité d'individus, une grande masse d'individus.
Bernard est resté, je dirais, le globaliste très généraliste. Dans les petits Bernards, je prends Daniel Kahn par exemple, lui s'est spécialisé sur l'éducation des enfants, qui appelle les enfants velcro, Teflon. Oui, c'est ça, velcro, c'est pas vrai. Les anciens enfants. Mais Bernard, est-ce qu'il va rester le globaliste, le généraliste?
Oui, je resterai toujours généraliste parce que pour moi, me spécialiser dans un domaine, c'est un monde. Si j'allais dans la direction de l'éducation des enfants, c'est un monde qui est tellement vaste que je ne pourrais pas faire le reste. Donc il y a des gens...
Est-ce qu'on pourrait recevoir Bernard une table ronde avec Daniel Kahn? Un éducateur qui est directeur d'une commission scolaire, qui a des idées, qui a des visions futuristes ou qui a des visions, ça pourrait être une table ronde intéressante. Parce que j'essaie de booker mes dimanches là, avec lui là, pour voir les tables rondes parce qu'on met tout autour de lui.
Tout ceci fait partie des possibilités. Mais remarquez une chose, que je ne suis plus disponible comme avant parce que je dois m'occuper de ce qui se passe en dehors du pays. Mais effectivement, ces choses devraient être faites. Mais ils doivent être faits dans un grand esprit. S'ils ne sont pas faits dans un grand esprit, je ne le ferai pas. Et je suis suffisamment télépathe pour savoir si ceux qui viennent à votre table, même si je ne les ai pas revus, ils ont un grand esprit.
Il ne doit pas y avoir ni d'orgueil, ni de compétition, ni
non,
de...
Non, il doit y avoir de la simplicité entre les hommes, de l'échange créatif. Vous, quand vous parlez, vous dites quelque chose. Je regarde ce que vous dites. Moi, je parle, vous regardez ce que je dis. C'est comme ça que nous avons pu, pendant des années, travailler ensemble. Parce que le fondamental de toute communication, c'est le respect de ce que l'autre sait. Ce n'est pas parce que moi je suis Bernard de Montréal que l'autre n'est pas son propre véhicule. Nous avons différentes fonctions créatives, mais elles sont tous universelles et elles vont toutes dans la même direction à long terme. Mais il faut qu'il y ait du respect intégral de l'autre. Il faut avoir de l'écoute, il faut avoir de la parole. Donc, il faut avoir un minimum d'orgueil. Effectivement, s'il y a de l'orgueil, d'ailleurs, je ne me présenterai pas s'il y avait de l'orgueil parce que je ne veux pas mettre personne en boîte. Je ne veux pas créer de choc. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux pour moi ne pas être là. Mais s'il y a de la belle intelligence, de l'esprit, qui se spécialise dans un domaine, un autre domaine, un autre domaine, un autre domaine, il y aura un courant souterrain qui pourra lier tout ça. Et ça ferait partie d'un nouveau plan d'évolution de la parole éducatrice, ésotérique et occulte que nous avons le plaisir d'avoir dans la province de Québec. Mais il y a des conditions, et ces conditions, elles doivent être absolues, elles ne peuvent pas être relatives. C'est comme ça que ça fonctionne. La conscience créative ne plie pas à l'astral, elle est anti-astral, elle voit l'astral, consciente de l'astral. La conscience créative... Se lie facilement avec la conscience créative, à quelque niveau qu'elle soit. Même si moi je suis très sérieux, je me suis lié très facilement avec vous qui êtes un glaineux. Hein? Parce qu'il y a une conscience créative. Donc, la conscience créative va derrière la forme. Mais s'il y a de l'orgueil ici.
On n'a pas tout à fait les mêmes règles du jeu. Moi, je donnerai un exemple, là, ici, devant tout le monde qui est dans la salle, je dirais, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est vraiment là, très compétent dans un domaine spécialisé, puis je l'invite à venir ici en avant pour que je vais faire l'abîmateur, là. Je vais lui poser deux, trois types de questions qui vont l'aiguillonner, puis après ça, je demande à Bernard d'embarquer dans la conversation avec ce type-là, ou cette femme-là, ça peut être une femme aussi. Je sais bien que les gens qui sont venus ici, c'est surtout pour écouter Bernard, ils n'ont pas prévu que je les lancerais là-dessus. Mais devant ça, je ne sais pas comment Bernard réagirait, parce que en général, Bernard, lorsqu'on fait des conférences, il n'aime pas du tout qu'on en arrive à une période de questions avec le public. Parce qu'il y a peur de questions, la vibration va tomber.
Il dit toujours ça.
Raison. C'est-à-dire, on joue un spectacle ce soir tout en communiquant des idées. Alors, il est virtuose, puis j'essaie d'être le chef d'orchestre. Si il arrive quelqu'un qui fausse, embarque avec son instrument de musique dans l'orchestre et qui fausse, toute la soirée tombe à cause d'une intervention qui détonnerait, si on veut. Mais là, je me demande, ça vaut pas la peine d'essayer, parce qu'on est dans notre dernière rencontre avec le public, là. Est-ce quelqu'un qui est, je sais pas moi, médecin, en architecture, en dentisterie, en alimentation, je donne une occasion pour voir aussi avec Bernard comment ça marcherait. Moi, je vais dire, Bernard, je suis tellement glaineux que je m'inquiète jamais des situations. Je me sors de toutes les situations inimaginables, les plus invraisemblables avec les situations les pires, les plus cocasses des fois. J'ai pas peur des événements. J'ai pas peur à cause de mon ego, peut-être. J'arrive ici, n'importe quoi, je vais m'arranger avec. Une émission à ligne ouverte. Y a-t-il quelque chose de plus dangereux qu'une ligne ouverte? On dit, on ouvre la cage des lions. Parce qu'on sait pas qui va appeler, qu'est-ce qui va arriver au bout de la ligne. Là, je lance une invitation, puis je sais pas, il y a peut-être quelqu'un, comme tu disais, qui a besoin d'écoute, là, qui sort d'un centre psychiatrique, qui va lever la main en disant, moi, je veux parler. Ça peut arriver. Et pourquoi pas? On est, t'es au-dessus de ça, j'allais dire, on est au-dessus de ça.
Ça oui, mais ça fait partie de votre travail. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai besoin du calme, de l'échange, le plaisir, j'ai besoin
Mais il faut savoir pas vivre. Moi, à Québec, j'en ai un des fois qui est capoté.
Je patine avec des gens comme vous. Ce n'est pas avec les gens dans le public que je suis intéressé à patiner. Ça ne patine pas assez vite. C'est avec des gens comme vous que je patine. Parce que, en patinant avec vous, à ce moment-là, nous pouvons créer une chorégraphie. Mm-hmm. Il y a effectivement des gens dans le public avec lesquels on pourrait patiner, mais il n'y a pas de continuité. Ce serait un mouvement A. À moins que ce soit des gens qui soient intelligents. J'ai déjà répondu.
Mais moi, j'en connais dans la salle, là, puis ils sont intelligents. Il y en a que je reconnais, là.
Donc, quand je dis,
il ferait le bout. Hein.
À moins que ce soit des gens intelligents, je ne dis pas que les gens ne sont pas intelligents. Et je dis que, bon, je vais vous donner un exemple. J'ai répondu dans le passé, dans le public, à des questions intelligentes. Et, avec plaisir. J'ai répondu aussi dans le public où je n'ai pas répondu à des questions qui font partie d'une sorte de besoin de l'ego de se prouver. Ça, c'est comme le type qui fait la lutte ou qui est une star à la télévision. Quand il entre dans un restaurant et qu'il rencontre un autre type qui fait la lutte, on veut le tester pour voir s'il va bien. Les gens qui sont dans le public vivent ça. Moi, je ne suis pas intéressé à ça.
On comprend bien, hein?
Parce que j'ai trop à dire qu'il soit sérieux, valable. J'ai trop à communiquer avec l'homme en tant qu'esprit. J'aime communiquer avec l'homme dans son esprit. Mais je ne suis pas intéressé à vivre l'insécurité psychologique d'un ego qui est frustré pour quelque condition que ce soit dans sa vie. Ça fait partie de son expérience. Je le respecte, ainsi de suite. Mais ça me fatigue, je perds de l'énergie avec des gens comme ça.
Je me souviens que dans les tout débuts, Bernard avait dit, il faudrait qu'un jour, si quelqu'un veut rejoindre le premier ministre des États-Unis, puisse, en 2-3 coups de téléphone, le rejoindre s'il y a quelque chose d'une importance nationale à lui dire. Aujourd'hui, c'est impossible de rejoindre Bernard. Quelqu'un dans la salle voudrait rejoindre Bernard, je ne sais pas si en 2-3 coups de téléphone, il pourrait réussir à rejoindre Bernard de Montréal. Il faudrait qu'il appelle Yolande ou Donald Moses, et puis peut-être...
Me rejoindre, pourquoi? Pourquoi me rejoindre? À quoi ça va servir à une personne de me rejoindre? Pourquoi me rejoindre?
Ben, si je demandais aux gens de lever la main, tous ceux qui auraient eu un jour besoin d'appeler Bernard pour lui demander une affaire, pour lui dire une affaire...
Mais il y a des centaines, il y a des milliers de gens qui auraient des ligues... Je vous donne l'exemple du type qui m'envoie une lettre. C'est parce qu'il était en France, il était loin, que j'ai demandé à la secrétaire d'écrire la lettre. Mm-hmm. Mais j'ouvrais mes portes, si j'ouvrais mon téléphone, si vous voulez, à la population, je ne dormirais pas le soir, parce que les gens, pour toutes sortes de raisons, soit par la fascination, soit parce que il y a des gens qui m'aiment, par whatever, par la curiosité, je ne sais pas. Ça, c'est bon pour vous de vous faire réveiller dans la nuit, pas moi. Ça fait partie de votre travail.
J'ai mis un répondeur automatique.
On
soit 200 téléphones par 24 heures.
100 téléphones par... Vous imaginez, moi, recevoir 200 téléphones par 24 heures? Je vis sur le toit de la maison avec mon chat.
Non, je ne veux pas faire ça.
Ou ben non, vous vous achetez un répondeur automatique.
Non. Oui, ça règle le problème.
Mon travail, c'est de donner une instruction. Ce n'est pas de diagnostiquer le mal de tout le monde. C'est ça mon travail. De donner une instruction, sachant qu'avec le temps, si les gens poursuivent, regardent, si ça leur intuition connecte, éventuellement ils auront les réponses. Mais ce n'est pas à moi. Il y a des gens qui ont la force de faire des diagnostics. Il y a des gens qui ont la force de donner des conseils. Il y a des gens qui ont... Je n'ai plus cette force. Je l'ai eu au début. Non, je ne l'ai plus. C'est un travail. Ceux qui travaillent dans l'infirmerie, ceux qui travaillent dans les agences sociales, ceux qui aident la population, savent comment d'énergie ça prend pour travailler près des gens qui ont des problèmes. Donc, mon travail, ce n'est pas d'aider les gens qui ont des problèmes, c'est d'expliquer pourquoi et comment existe la problématique de la conscience humaine. Je crée un blueprint, j'explique un blueprint, ensuite je dis, bon, ben, regardez le blueprint, et avec des années, vous en arriverez à comprendre les principes qui font que, bon, votre vie est comme ça ou votre vie est comme ça. Je ne peux pas.
Est-ce qu'il y a des séminaires, il y a des gens qui sont sortis de là complètement démolis, déséquilibrés?
Non, si on regarde les conséquences des séminaires au cours de toutes ces années, de tous ces gens qui sont venus, je suis très content parce que ils ont permis aux gens au cours des années de réaliser beaucoup d'illusions. Mais un séminaire, ce n'est pas facile. Il faut vouloir venir. Vous n'allez pas dans un séminaire parce que votre belle-sœur vous dit « tu devrais y aller ». Il faut vouloir y aller. On ne peut pas aller, il faut suivre son mouvement. Donc, les séminaires à ce niveau-là ont été généreux pour l'homme. Et je suis content, mais il fallait être vigilant. Quand j'ai une personne qui vient à mon séminaire et qu'elle me dit, « Bon, mais écoutez, M. Bernard, moi, quand je traverse la rue, mon corps astral s'en va de l'autre côté de la rue, ensuite je suis obligé d'attendre mon corps physique. » Je ne suis pas intéressé à inviter ces gens à mon séminaire tout de suite. Parce que je sais que si la personne est dans cette sensibilité, si le corps astral est déséquilibré à ce point où il se disloque comme ça, pour qu'elle soit obligée d'attendre que le corps physique arrive pour prendre l'autobus, imaginez-vous ce qui va se produire quand moi je vais expliquer à cette personne-là ce qui se passe au niveau interne. Donc, il faut être très vigilant. Ce qui m'a permis de faire ce que j'ai fait pendant les années, ça, ce n'est pas dû à moi, ce n'est pas dû à la nobilité de ma personne, c'est dû à la fusion, c'est l'absence intégrale d'orgueil. Donc, l'absence d'orgueil permet à l'énergie de passer à travers l'ego, qui devient comme une lentille. Donc, effectivement, tu vois toutes sortes de choses. Tu vois l'homme, tu peux parler de toutes sortes de choses, mais tu es toujours forcé de vivre par rapport à la vibration créative, jamais par rapport à une prise de conscience égoïque. Sinon, tu tombes dans la trappe du pouvoir. Tu te fais des sectes, tu deviens un gourou, tu te lis des gens. Et ça, non. Moi, j'ai un groupe dans ma vie, c'est ma famille. Ma femme et ma fille, ça, c'est mon groupe. Ça, c'est ma secte. Et il faut le faire. Plus l'homme sera dans le public, plus il sera adulé du public, plus il sera aimé du public, ou plus il sera respecté du public, plus il devra faire attention de ne pas se laisser astraliser. Et c'est pour ça que j'ai mis des mises en garde pendant des années. Parce que je reconnais le pouvoir de la parole, je le vis. Donc, tu donnes la parole, tu laisses les gens libres. Tu parles, tu instruis, laisse les gens libres à comprendre avec le temps, petit à petit, vivre leur expérience. Ne pas les amener dans ton sein et fermer autour de ta personne un égrégore qui éventuellement va sauter. Anyway, l'homme qui est moindrement astralisé ne veut pas supporter le pouvoir. Regardez ce qui se produit avec les évangélistes aux États-Unis. C'est difficile de supporter le pouvoir. L'homme se laisse astraliser rapidement. Mais l'homme conscient comprendra ceci. Donc si nous trouvons une formule intéressante pour vous et pour moi et pour d'autres, nous pourrons poursuivre ce travail, mais je veux le faire avec d'autres cerveaux, échanger avec d'autres cerveaux, des charrons, des instituts, des gens comme ça. Et ce serait intéressant.
Surtout social, vous avez dit. Tantôt.
À tous les niveaux, tout est intéressant. En tout cas, je remercie, c'est une chose que, d'ailleurs, à laquelle je n'avais pas pensé de cesser mes activités aujourd'hui. Mais je remercie le public présent et au large. Qui sont venus m'écouter pendant des années.
Qui continueront à vous écouter.
Probablement.
À vous suivre. Ouais. Il y aura des émissions, il y aura des...
Il y a des phases, on change de phase. Moi, je suis obligé maintenant
d'aller dans le monde, sortir du groupuscule humain pour aller dans le monde, dans les structures. Et pour moi, ce sera intéressant. Et pour ces gens, ce sera intéressant. Mais c'est un autre mouvement d'énergie. Je veux amener l'industrie, par exemple, à utiliser les modes de mesure profilométriques basés sur l'astrologie, basés sur la biorythmie, basés sur un autre système que nous sommes en train de développer, pour que une personne dans l'industrie qui reçoit une secrétaire ou qui reçoit quelqu'un qui travaille dont ils ont besoin.